Bonjour Émilie Bénichou.
Bonjour Didier. On va être un peu plus sérieux que d'habitude. On va essayer de trouver des idées pour transmettre aux plus jeunes la manière la plus pédagogique et la moins traumatisante surtout de discuter de Shoah avec nos enfants, même un peu plus jeunes.
Bien, ben justement, vous parlez d'enfants un peu plus jeunes, Émilie. À partir de quel âge pensez-vous que c'est utile ou que ce sera porteur d'en parler à nos enfants sans que ça ne les traumatise et que ça ne leur fasse faire trop de cauchemars? Je parle en connaissance de cause.
Tout à fait. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est à partir de quel moment les enfants vont être sensibilisés à ces questions-là. Alors forcément, dans les familles juives comme les nôtres, les enfants rencontrent ces questions relativement tôt. Si on part d'un aspect plus général, et surtout, c'est pas moi qui le dis, mais plutôt des pédagogues ou des gens spécialistes de la Shoah, le bon âge pour commencer à en discuter, c'est vers 8 ans, parce que souvent, vers 8 ans, les enfants sont confrontés à des images, à des films qu'ils peuvent voir passer, à des histoires. Ils en discutent parfois à l'école.
Voilà,
et se retrouvent seuls face à ces questions-là si nous, parents, on n'aborde pas un peu ces questions avec eux, et donc peuvent déjà développer une forme de traumatisme. Donc l'idée, c'est ici de leur apporter des clés pour comprendre sans traumatiser.
Oui, pour parler d'une expérience personnelle, je me souviens à l'époque, moi j'étais dans des écoles non juives, et voilà, ça arrive à un tas de gens bien, et c'est vrai que j'étais confronté aux questions de mes petits camarades à l'époque, sur le judaïsme en général, mais sur la Shoah en particulier. Et je me suis rendu compte que je n'avais aucune réponse à leur apporter, parce que c'est vrai que dans ma famille, dans ma cellule familiale, c'était un sujet, je ne vais pas dire tabou, mais c'est un sujet qu'on n'évoquait pas.
Justement, ici, l'idée, c'est de sensibiliser les enfants au travers de documents, de choses qui sont tout à fait concrètes. Parce que finalement, c'est ça qui va leur permettre de faire la recherche eux-mêmes et de comprendre les faits sans passer par l'aspect complètement génocidaire qui est vraiment très difficile à comprendre pour des enfants et dont on ne doit pas parler entre guillemets tout
bien
de suite.
Sûr.
L'idée, c'est de remonter des faits historiques, de faire une sorte d'enquête. Donc j'avais quelques outils que j'ai relevés et que j'ai découverts par cette recherche aujourd'hui, notamment le Grenier de Sarah, donc qui est un site internet qui a été mis en ligne par le Mémorial de la Shoah de Paris et qui repart en fait du vivant. Donc qui va permettre dans un premier temps de retracer au travers de différents contes l'histoire des Juifs au Shtetl, le Rebbe dans ce Shtetl, et effectivement peut-être aussi permettre à certaines familles, notamment ici en Belgique, parce que moi j'ai la chance de venir de France et que Jacques Chirac en 1995 est reconnu l'investissement de la France dans la collaboration dans tout ça, ce qui a fait que les Juifs français, je pense, ont fait davantage un travail de mémoire. Ici, comme vous le dites, Didier, certains parents ou grands-parents ne sont pas encore toujours prêts à parler de ces questions-là. Et au travers des outils comme le Grenier de Sarah que vous allez trouver en ligne, et je vous donnerai les différentes choses, et également une expo que moi j'avais vue ici en Belgique avec mon fils qui s'appelle Les Juifs de la Résistance, qui est très très ludique dans le sens où on investit l'enfant, on fait de lui un résistant, un jeune résistant. Donc
d'accord.
Encore une fois, il est acteur de ces questions, il va aller chercher un suivi autour de ça. On se retrouve clairement dans une idée d'action et de vivant et de retracer l'histoire et des Juifs d'une part avant la Seconde Guerre mondiale et d'autre part de l'action qui a pu être faite pendant la guerre par certains pour sauver des Juifs, pour aider, pour eux-mêmes résister.
Mais vous parliez de leur raconter des histoires et des contes, ben justement pour illustrer ça, on va écouter une histoire du Rebbe, du rabbin, donc dans un petit shtetl dont le nom va évoquer, je pense, chez pas mal de nos auditeurs quelque chose, puisqu'il s'agit de Chelm.
Il était une fois dans la célèbre ville de Chelm en Pologne, un pauvre paysan nommé Jankel Chubivatos qui souffrait terriblement de son existence misérable. Un jour qu'il n'en pouvait vraiment plus, il décida d'aller demander conseil au rabbin de la ville. « Reb, lui dit-il, tout va très mal pour moi et les choses ne font qu'empirer. Nous sommes tellement pauvres que ma femme, mes beaux-parents et mes 6 enfants vivons ensemble dans une seule pièce. Entassés les uns sur les autres, nous n'arrêtons pas de nous chamailler. C'est l'enfer, Reb, c'est l'enfer. Je préférerais mourir tout de suite que de continuer à mener une vie pareille. » L'ayant attentivement écouté, le rabbin se plongea dans une méditation profonde avant de répondre.
Avant de répondre ?
Avant de répondre, vous pourrez découvrir la suite sur le site Le Grenier de Sarah. Donc voilà, ça c'est un extrait du site du Mémorial de la Shoah dédié aux enfants. La bonne nouvelle, c'est que aussi pour les pédagogues, il y a un accès spécifique qui peut être demandé. Et je trouve vraiment que c'est très didactique et ça reste quelque chose qui est abordé de manière sérieuse, mais pas traumatisante et pas dans des visions d'horreur, parce qu'on précise bien, et c'est vraiment ce qu'il faut retenir, qu'on doit pas confronter les enfants à des choses qui sont tout à fait traumatisantes, des images qu'on voit parfois autour de la Shoah, et même au-delà de 12 ans, hein, je veux dire, parce que finalement, ce traumatisme-là va bloquer leur réflexion et les désintéresser de la question, alors que l'idée est vraiment de transmettre au travers de l'histoire de certaines personnes. On le voit sur ce site-là, notamment avec des moments de vie. Donc, comme vous disiez, Didier, il y a deux pôles. Nous, dans nos familles, on a peut-être encore la chance d'avoir une transmission possible directement, que ce soit de nous, parents, transmis par nos grands-parents. Moi, je suis l'héritière d'une grand-mère qui a assumé directement la Shoah parce qu'elle est partie en combat contre Papon à Bordeaux, donc je suis bordelaise pour ceux qui ne le savent pas, et ça m'a permis de pouvoir échanger en permanence autour de ces questions-là avec elle et d'en être maintenant porteuse. Je pense que c'est ça vraiment l'idée et c'est ça les outils peuvent être ou en ligne, comme ici avec le Grenier de Sarah, ou en direct avec les familles, ou l'écoute de témoignages qui est encore quelque chose qui va devenir indéniable et qu'il faut continuer à faire avec le peu de survivants qu'on a encore, les enregistrements, les podcasts comme on fait parfois à la radio, qui permettent à tous ces gens-là de transmettre encore cette mémoire qui est malheureusement triste mais réelle et dont nos enfants sont ceux qui transmettront à leur tour.
À leur tour. Mais je voyais justement dans ce que vous expliquiez qu'il fallait sensibiliser les enfants à l'histoire de la Shoah, leur présenter des portraits de personnes qui racontent leurs histoires, qui témoignent. C'est beaucoup plus pédagogique, vous le disiez, et moins traumatisant. L'observation d'objets est aussi une manière de les questionner, de les sensibiliser sur ces questions et leur permettre d'en saisir la réalité. J'en veux pour preuve, par exemple, les étoiles jaunes, qui dans l'inconscient collectif, et on l'a encore vu récemment avec le Covid, je ne sais plus dans quel pays, les gens se baladaient avec des étoiles jaunes en disant, comme les Juifs à l'époque, nous sommes ostracisés parce qu'on ne peut pas sortir, etc. Donc il y a une espèce de vulgarisation de ces symboles qui sont finalement qui n'ont rien à voir avec l'époque actuelle, et donc pour que les enfants ne fassent pas un amalgame, il faut quand même rester très très prudent et rester bien je dirais dans un décorum bien défini.
C'est là l'importance et c'est là aussi que on retrouve sur différents sites et notamment ce fameux Grenier de Sarah. Alors vous allez dire que je suis accrochée à celui-ci, mais j'avoue que c'est une belle découverte et que je recommande vraiment aux parents, bien sûr en accompagnant leurs enfants, hein, ne les laissez pas les naviguer là-dessus tout seuls, en étant avec de se rendre là-dessus. On retrouve des portraits. Plusieurs portraits de personnes qui parlent oralement et qui racontent leur histoire, et justement ça donne une dimension réelle à qu'est-ce que c'était porter l'étoile jaune, qu'est-ce que c'était se sentir en dehors de l'école parce que à un moment donné on nous a mis de côté, pas comprendre pourquoi on va emmener nos parents, pourquoi on va devoir se cacher, etc. Et je crois, Didier, que vous avez un extrait à nous faire écouter d'un des personnages du Grenier de Sarah qui a vécu la Shoah.
Les camps en France.
Poitiers, mon premier camp. Drancy, j'y fête mes 9 ans. 3 semaines de Drancy. Camp de Pithiviers, beaucoup de baraques, beaucoup de gendarmes.
Drancy.
Nous sommes des centaines d'enfants. Nous montons un mouvement scout. Chants, promesses, et chaque jour une bonne action. Ça peut être aider une vieille dame à aller jusqu'au WC, porter la soupe à un malade, ou même donner un peu de son pain à plus maigre que soi.
De Drancy à Bergen-Belsen.
Après le 11 novembre 42, au fur et à mesure que les responsables disparaissent, les mouvements en font autant. Scoutisme, théâtre, religion, tout s'évanouit. Tout disparaît, tous disparaissent. Puis à notre tour, nous sommes déportés. Arrivés au camp de concentration de Bergen-Belsen, on descend.
Voilà, donc ça c'est un témoignage, je vais dire audio, mais il y a évidemment, par-delà, je dirais, les témoignages directs et le fait de raconter. Il y a aussi une autre façon de raconter, mais plus littéraire, cette fois ce sont les livres.
Tout à fait. Un des outils majeurs qu'on va retrouver, c'est en librairie, c'est le livre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui se sont adaptés au plus jeune âge. Et ici, bon, j'ai relevé quelques noms intéressants. Il me reste pas beaucoup de temps et cette chronique m'a mise un peu en émotion, donc j'étais un peu moins à l'aise que d'habitude peut-être. Mais il y aura L'ourson de Fred. qui ici retrace l'histoire d'un enfant caché dans les mots de son ourson, donc qui reste très doux et très accessible pour les plus jeunes. Un grand-père tombé du ciel, où c'est un échange entre une petite fille et son grand-père. Ils se rencontrent, elle n'est pas au courant de son histoire, et puis forcément, elle va découvrir que c'est un rescapé de la Shoah, ils vont discuter ensemble, et ici, on aborde aussi ces sujets-là. Le fameux sac de billes qui a été revisité sous forme de BD illustré, qui peut être en plusieurs tomes ou en un seul tome, où on retrouve l'histoire de ces deux frères qui vont partir, on va dire, explorer le monde que tout le monde connaît bien. Et également, Jules B., l'histoire d'Injuste. Alors celui-là, il peut avoir quelques images un peu choquantes quand même. Donc il faut vraiment, sous l'œil d'adultes aguerris et puis d'enfants peut-être un peu plus âgés et prêts à se confronter avec quelques images un peu plus choquantes. Mais voilà, il y a beaucoup de choses en librairie, il y a beaucoup de choses sur Internet, sous contrôle, bien entendu. Et je pense que c'est la mission de tous parents, juifs ou non-juifs, de transmettre et de faire en sorte que nos enfants ne prennent pas ça comme un poids, mais plutôt comme une histoire et une mémoire surtout pour tous ceux qui sont partis et auxquels on pense quand même malgré tout.
Ben, bien évidemment, il faut perpétuer leur mémoire. Et puis par-delà cela, par-delà les bouquins, il y a aussi pléthore de films. Et par hasard, le sac de billes, vous l'évoquez. Et puis il y a aussi des films qu'on peut inviter nos auditeurs à montrer à leurs enfants, parce que ce n'est pas trop de trash, avec tous les guillemets nécessaires bien sûr. C'est Monsieur Batignolles par exemple, qui était un grand film. Et je pense qu'il transmet un message, et même aux plus petits, je dirais, pour ne citer que celui-là, bien sûr. Mais c'est vrai, vous le disiez, on est un peu dans l'émotion ce matin, parce que dès que ça touche les enfants, forcément, ça nous touche, puisqu'on est des anciens enfants, hein. Nous sommes des anciens bébés. Et puis, c'est ça, hein, c'est ça la vie, hein. Il faut perpétuer la mémoire des bonnes choses et aussi des moins bonnes, et faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais, étant le mot d'ordre depuis 80 ans déjà.
Tout à fait.
Merci pour cette chronique, Émilie. On vous retrouve dans 15 jours.
Oui, tout à fait, avec grand plaisir.
Et bien, à plus tard. Et on rappelle à nos auditeurs que tout ce dont vous venez de parler, ils vont le retrouver sur le podcast, bien évidemment.
Tous les renseignements sont sur le podcast, avec les différents liens et les titres de livres, comme d'habitude.
Impeccable. J'ai hâte de retrouver cela sur notre page Facebook.
Merci beaucoup.